Mémoire vive.
Présenté par Christelle Le Polotec
et préparé par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Alexandre Sumpf, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg. Vous êtes l'un des commissaires de l'exposition « Filmer la guerre, les soviétiques face à la Shoah, 1941-1946 », présentée actuellement au Mémorial de la Shoah à Paris, et ce jusqu'au 27 septembre prochain. Alors vous y montrez des archives, pour la plupart inédites, plusieurs heures de films qui ont été tournés par des opérateurs soviétiques envoyés sur le front et qui ont été chargés de documenter le génocide, notamment à partir de 1942 dans un but de propagande, mais aussi de témoignage afin d'accumuler des preuves contre les nazis. Vous avez donc puisé dans ces archives de films russes, mais aussi à Varsovie, à Riga et à Kiev, des archives que l'on n'avait jamais eu l'occasion de voir en Europe de l'Ouest.
Oui, d'une certaine manière, il y a à la fois dans cette exposition des archives quasiment inédites, des images qui n'ont pas été montrées en Europe occidentale depuis le procès de Nuremberg, depuis la projection du film soviétique le 19 février 1946, des images qui sont forcément restées inédites parce que ce sont des rushs que nous proposons, c'est-à-dire que nous comparons les films montés, les films qui ont été présentés au public, et puis les images qui ont été écartées au montage pour des raisons techniques, pour des raisons de propos, pour des raisons esthétiques, etc. Et puis il y a aussi des images effectivement très connues, au contraire, qui sont les images notamment de ce qu'on appelle la libération des camps, ou plutôt de leur ouverture, de leur découverte, sur lesquelles nous revenons, non seulement pour détailler ce qui a été montré et ce qui n'a pas été montré, c'est un des premiers propos principes de l'exposition, mais aussi et surtout pour expliquer la manière dont elles ont été tournées, dont elles ont été captées, et pour expliquer surtout la manière dont elles ont été utilisées.
Est-ce qu'on peut tout d'abord parler de ces opérateurs, ces gens qui sont venus filmer sur le front, et surtout le regard qu'ils portent sur ce qu'ils filment?
Oui, en tout, au cours de la guerre, donc entre 1941 et 1945, pour ce qui concerne la guerre entre les Allemands et les Soviétiques, 258 opérateurs ont été envoyés sur le front. Alors, il n'était pas 258 en même temps sur le front. Et ces opérateurs suivaient les unités d'armée rouge. Aucun n'a été spécialisé dans tel ou tel type d'image, tel ou tel type d'exaction, et aucun n'était le monsieur génocide ou le monsieur Shoah de l'armée rouge ou du ministère du cinéma. Donc, il faut bien se rendre compte que la plupart de ces personnes, de ces hommes, il y avait quelques femmes aussi, assez jeunes, pour certains très expérimentés comme Roman Carmen, pour d'autres au contraire sortant à peine de l'école de cinéma, n'étaient pas préparés à filmer cette guerre, une guerre extrêmement violente, et dans cette violence de guerre, une violence militaire, une violence très particulière qui s'exerce contre les civils. Et à l'intérieur, encore une fois, de cette violence totale, pour mémoire, environ 27 millions de victimes soviétiques entre 1941 et 1945, eh bien, il y a cet assassinat systématique des Juifs, qu'on n'appelle pas encore le génocide, environ 3 millions de victimes sur le sol soviétique dans ces frontières de 1945. Donc ces personnes ne sont pas préparées. Pour autant, au fur et à mesure de la guerre, en échange permanent avec ceux qui montent les images qu'ils envoient, et ça c'est un processus qui se déroule à Moscou, eh bien, ils vont s'aguerrir, ils vont apprendre à filmer ces exactions, apprendre à filmer les traces de ces exactions, plus exactement, et de manière à pouvoir au mieux en faire ressortir à la fois l'ampleur, l'horreur, l'exceptionnalité.
Oui, parce qu'on précise, donc ça commence après le déclenchement de l'opération Barbarossa, donc en 1941. Et évidemment, quand les Russes arrivent, c'est que les nazis ont été vaincus sur les terrains où il y a...
C'est cela. Donc, c'est une guerre extrêmement rapide hein, de la part de l'armée allemande, de la Wehrmacht, en juin 1941, puisque au bout d'une semaine, Minsk, la capitale de la Biélorussie soviétique, est prise. C'est extrêmement rapide. Et d'emblée, des unités spéciales, les Einsatzgruppen, s'occupent de sécuriser l'immédiat arrière-front et aussi de liquider les opposants potentiels et en même temps aussi de s'attaquer aux populations juives. Donc, ce sont les cibles, les communistes, les résistants, certains soldats d'armée rouge, et puis aussi les juifs exécutés en tant que tels. Certaines portions de territoire sont reprises assez tôt, et donc les soviétiques prennent conscience de ces exactions nazies germano-fascistes, disait-on à l'époque, en Union soviétique, très rapidement. C'est le cas, par exemple, du premier grand massacre à Kerch, qui est à l'extrémité orientale de la Crimée, aujourd'hui toujours encore en Ukraine, je le spécifie. Donc à Kerch, massacres qui ont lieu en décembre 1941, découverts en janvier 1942 et tournés immédiatement. Et tout de suite montés dans des sujets d'actualité, faisant l'objet aussi de parties de documentaires de propagande. Bien. Au contraire, vous avez des exactions comme celle perpétrée à Babi Yar, donc notamment le 29 et le 30 septembre 1941, 34 000 victimes environ, toutes exclusivement juives, qui ne sont découvertes que à la libération de Kiev à partir du 6 novembre 1943. Donc vous avez une extrême ampleur géographique de ces exactions et de leurs découvertes, et aussi une amplitude chronologique, à la fois parce que ces découvertes s'échelonnent véritablement du début 1942 jusqu'à la toute fin 1944 et début 1945, et en même temps parce qu'il y a aussi des échelles variées de découvertes des échelles variées dans le laps de temps entre le meurtre, l'assassinat systématique, et puis sa découverte et l'enquête.
D'accord.
Et ce qui pose évidemment des problèmes par rapport au recueil de témoignages, à la compréhension de ce qui s'est passé sur ces lieux.
Justement, peut-être on va rester sur cet exemple que vous évoquiez du massacre de Babi Yar, qui a donc été perpétré en 1941. Mm-hmm. Vous l'avez dit, qui a donné lieu à un tournage postérieur. Qu'est-ce qui a été filmé alors ? Qu'est-ce qu'ils ont
alors,
pu
filmer ?
Alors
c'est très difficile parce qu'à Babi Yar, les soviétiques n'ont rien pu filmer. Pourquoi ? Parce qu'en novembre 1942 a été lancée depuis l'Allemagne l'opération spéciale 1005, qui était une opération visant à dissimuler les traces, donc les preuves des exactions nazies, et en particulier du génocide des Juifs, qui a conduit, on le sait, à la destruction des premiers camps qui ont été installés en Pologne, occupés, à savoir notamment le camp de Belzec et celui de Treblinka, mais qui a aussi consisté dans une myriade d'endroits et de fosses plus ou moins importantes à exhumer les cadavres, à les faire exhumer par des prisonniers de guerre soviétiques la plupart du temps, c'est le cas notamment à Babi Yar, à faire brûler ces cadavres s'ils sont encore en état d'être brûlés, et à faire piler les ossements de manière à ce que ce soit rendu méconnaissable et surtout non recensable, pas comptable. Et donc, le fossé de Babi Yar, à certains endroits, fait plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Ce fossé, on le sait, a été rempli par des couches successives de victimes, d'à peu près 150 000 victimes, entre septembre, la fin septembre 1941 et on va dire le milieu de l'hiver 1941, donc décembre. Quand les soviétiques arrivent le 6 novembre 1943, le ravin est complètement vide. Et donc il a fallu, d'une certaine manière, remplir, documenter ce vide par un plein qui était celui de témoignages. Donc on a filmé un rescapé de ces Sonderkommando, de ces équipes spéciales qui ont été forcées d'exhumer les cadavres sur place. On l'a filmé en train de raconter ce qu'il a fait, on l'a filmé aussi en train de le raconter à un pool de correspondants soviétiques et étrangers qui a été amené sur place au printemps 1944 afin de se rendre compte de l'ampleur de ce lieu de massacre qui, pour les soviétiques, et c'est bien que vous le mentionniez, qui pour les soviétiques est l'équivalent de ce qu'est Auschwitz pour nous. C'est pour eux, c'est le symbole de la Shoah, c'est Babi Yar, parce que Babi Yar s'est déroulé sur le territoire soviétique et que c'est en dehors finalement d'Auschwitz, le principal lieu de massacre des Juifs par l'ampleur, par le nombre de victimes.
Est-ce que Babi Yar va être une exception ? C'est-à-dire que dans ce cas précis, du coup, le témoignage oral va être plus important que le témoignage filmé ? C'est une exception, ça, dans tous les films que vous présentez ? Ou est-ce que le témoignage oral a sa place dans ces films ?
Ce témoignage, il a une place, déjà il a une place parce qu'il est filmé. Le problème c'est que les soviétiques, ce n'était pas que de la mauvaise volonté, n'avaient pas toujours le matériel d'enregistrement sonore. Ils étaient mal équipés, notamment en comparaison des Allemands ou plus tard des Américains et des Britanniques. Et que donc, même quand ils filment des personnes qui s'expriment face à la caméra, ils n'ont pas toujours le son correspondant. Quand ils l'ont, c'est dans le cadre de tournages exceptionnels et notamment pour ce qui concerne l'Ukraine, les tournages commandés par le grand réalisateur ukrainien Alexandre Dovzhenko pour un grand documentaire de propagande qu'il réalise à l'époque en 1943. Et donc, on a de la chance d'avoir quelques enregistrements sonores, mais la plupart du temps, on n'a que des personnes qui s'expriment. Par contre, on a les procès-verbaux d'enquête de la commission extraordinaire d'État qui s'occupe de recenser toutes les exactions et toutes les destructions aussi perpétrées par les nazis sur le territoire soviétique. Et donc on peut en quelque sorte, en croisant les documents, ce que font les historiens, eh bien, rendre la voix à ces témoins qui en ont été privés pour des raisons techniques et aussi parfois sur des décisions de la part des monteurs, parce que l'étape du montage des films ajoute à ces images qui sont dans l'extrême majorité muettes, ajoute du commentaire. Ajoute de la musique. Et donc vient donner sens à ces images, un sens qui peut aussi changer tout au long de la guerre en fonction des besoins de la propagande et des publics visés.
Justement, on l'a vu, donc les Russes vont découvrir au fur et à mesure de leur avancée l'ampleur des exactions nazies. Mm-hmm. Et dans un premier temps, donc, ce qu'on appelle la Shoah par balle, qui a fait 1,5 million de victimes. C'est ça qui va motiver en 1942 l'ouverture de cette enquête extraordinaire.
Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi le. Alors il y a plusieurs raisons, c'en est une. L'autre, c'est que après la Première Guerre mondiale, il y avait eu une commission de ce genre-là pendant la Première Guerre mondiale en Russie, mais cette commission n'avait pas pu faire valoir ses droits à des réparations après la Première Guerre mondiale. Donc c'est un souvenir assez fort, même pour les soviétiques. Et puis, effectivement, il y a cette volonté de faire la liste de donc, toutes les destructions matérielles, les destructions du patrimoine culturel, et aussi les exactions contre ce qu'on appelle les paisibles citoyens soviétiques, et parmi eux, les citoyens juifs, qui en font partie prenante de manière non problématique à l'époque.
Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée déjà d'accumuler des preuves. C'est-à-dire qu'il y a la conscience qu'un génocide est en train de se perpétrer.
Je ne dirais pas ça. Non, il n'y a aucune... Si vous voulez, même s'il y a quelques ordres, quelques instructions plus exactement, qui demandent de filmer, notamment, on en a retrouvé une de décembre 1941, qui demande de filmer spécifiquement les victimes juives, ça ne fait pas partie des préoccupations ni des opérateurs, même si un certain nombre d'entre eux, et pas un petit nombre d'ailleurs, sont juifs, ni de la direction du musée du cinéma, ni de la direction politique de l'armée rouge, ni même du politburo de Staline. D'abord, on ne sait pas véritablement qu'il s'agit d'un génocide. On voit que les juifs sont particulièrement visés, mais ils le sont comme les communistes, ils le sont comme les résistants, ils le sont comme certains membres de l'armée rouge. Par contre, il y a évidemment, par le fait même, l'action même de filmer, cette captation documentaire constitue aujourd'hui une archive audiovisuelle absolument irremplaçable du génocide, mais parmi toutes ces violences de guerre. Et aujourd'hui, dans les archives, vous ne trouvez pas ces films sous la rubrique Holocauste, comme on dit en Union soviétique, ou Shoah, on dirait nous en France, ou sous la rubrique Violence faite contre les Juifs. Ça va être exaction germano-fasciste. Mmh. Donc ce n'est pas caché, c'est là, mais il faut savoir le trouver. Et c'est justement ce qui a nécessité 2 années de travail de la part de moi-même et des 9 autres membres de l'équipe que je coordine avec Valérie Posner.
Il y a, ça c'est aussi un aspect important que vous évoquez dans l'exposition, c'est les éventuels soupçons de manipulation de la part des soviétiques avec ces images, notamment évidemment dans le cas du massacre de Katyn, mais aussi sur la libération du camp d'Auschwitz, qui en fait est une mise en scène a posteriori.
Oui, donc ça me permet d'ailleurs de revenir sur une des spécificités de l'exposition, pour essayer que les auditeurs s'en fassent une idée. On présente non seulement ces films, il y a des panneaux avec le texte des commissaires, il y a aussi un certain nombre de documents iconographiques et aussi de traductions de documents d'époque. Et il y a aussi, ça c'est une idée brillante du scénographe, ce qu'on appelle des séquences pédagogiques. Elles sont au nombre de 6. Vous en trouvez un certain nombre sur Internet, notamment sur le mini-site consacré à l'exposition sur le site du Mémorial de la Shoah. Là, vous trouverez celle de Babillard. Donc, dans lesquelles nous reprenons des films et nous les expliquons. Et donc, pour ça, il faut prendre les écouteurs parce que vous avez la voix des commissaires qui vous explique ces films. Et donc, vous en avez une qui est consacrée dans la deuxième salle à la question de ce qu'on a appelé la reconstitution ou la réinterprétation de la libération ou de la découverte des camps de Majdanek et d'Auschwitz. Effectivement, des scènes ont été tournées de manière très postérieure en mars 1945, sur la demande express de l'armée rouge, pour documenter cet instant assez précieux qui n'a été documenté dans quasiment aucun camp, hein, que ce soit les camps de concentration libérés par les Britanniques ou les Américains, ou les camps libérés par les Soviétiques, tout simplement parce que les équipes n'étaient pas là. Et donc pourquoi l'armée rouge a insisté pour refaire ce tournage ? Parce qu'elle cherchait à faire une œuvre de propagande pour l'armée rouge comme une armée de libération du peuple européen enfermé à Auschwitz, libération aussi libérateur, libératrice de la Pologne. Mais ces images ont été tellement grossières, hein, celles de prisonniers qui ouvrent les grilles et qui embrassent sur la bouche ces braves soldats de l'armée rouge, qu'elles ne sont jamais entrées dans aucun film montré à l'époque. Et si aujourd'hui, dans les documentaires, ces images, elles sont très connues, on les utilise, c'est justement parce qu'on ne tient pas compte de ce que les Soviétiques ont se sont autorisés eux-mêmes à utiliser. Et donc, on les critique pour avoir fait cette reconstitution, alors que même, justement, se sont censurés sur cette reconstitution. Par contre, il y a une reconstitution complètement acceptable, qui leur a paru acceptable, c'est celle, deuxième scène reconstituée, de ces prisonnières polonaises dans les chalits d'Auschwitz, et qui ne sont pas particulièrement émaciées, pas particulièrement affectées, semble-t-il, par la détention, et qu'on fait passer pour des détenus d'Auschwitz. Au départ, on croyait même que c'était des villageoises des environs qu'on avait sollicitées pour cela. Il apparaît, après quelques recherches que nous avons effectuées, que ce sont en fait de véritables détenus d'Auschwitz, mais qui y sont arrivés assez tard, après l'insurrection de Varsovie. Pas du ghetto, hein, de Varsovie elle-même, de la ville de Varsovie. Et donc, que ce sont de véritables détenus qu'on a forcés, entre guillemets, ou à auxquels on a demandé de rejouer leur propre rôle, de manière, là encore, à combler, comme à Babillard, ce vide, parce qu'il était apparu inacceptable ou inconcevable aux yeux des Soviétiques de laisser, de filmer juste le vide. Et si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui a été évident. Ça a fait beaucoup débat dans le milieu de la cinématographie à l'époque, de même que les scènes de reconstitution, éventuellement de bataille, faisaient débat. Donc, oui, il y a reconstitution. La question est de savoir ce qu'on s'est autorisé à utiliser ou non comme image et ce qui était acceptable ou non par le public de l'époque. Et c'est ce qu'on cherche de manière nuancée à montrer dans l'exposition.
Comment ça, acceptable pour le public?
Acceptable. Eh bien, il était évident toutes les personnes qui ont visionné les images tournées, notamment de la libération, donc de l'ouverture de la grille, que ces images allaient être perçues comme fausses par tous les spectateurs, quel qu'il soit, et que donc ce serait décrédibiliser l'ensemble des films soviétiques que de diffuser ces images. Au contraire, les images de ces Polonaises sont apparues crédibles. Elles sont apparues crédibles parce que, même si elles n'étaient pas particulièrement affectées, elles étaient quand même particulièrement tristes, et qu'elles pouvaient montrer une forme de vie à l'intérieur de survie à l'intérieur de ces baraquements. Et que donc, ça pouvait documenter ce qui avait été le sort malgré tout d'un certain nombre de centaines de milliers de détenus, hein, puisqu'il faut rappeler qu'à Auschwitz vous n'avez pas un camp mais trois camps et qu'il s'agissait du camp de concentration et non pas du camp d'extermination.
Alors il y a un autre aspect qui occupe la dernière partie, on va dire, de cette exposition, c'est cette manière dont la spécificité de la Shoah a été occultée au profit de la barbarie nazie, vous diriez germano-fasciste, certainement.
Oui, c'est-à-dire que, alors là encore, c'est un effet de source, dirions-nous en historien, c'est-à-dire que dans les films, la judéité des victimes est à la fois évidente de certaines victimes, est à la fois évidente pour qui sait voir. Vous avez une étoile de David qui apparaît sur une manche, vous avez un nom qui est éminemment juif pour tout spectateur soviétique, vous avez la mention au passage dans une énumération de la judéité des victimes de Majdanek. Donc, qui veut savoir peut savoir, mais ce n'est jamais mis en avant, et vous avez au contraire coupes notamment des images de tas de talits, de voiles de prière, qui ont été filmées parmi les effets confisqués et entreposés donc, dans les entrepôts d'Auschwitz. Donc il y a une censure qui n'est pas une censure sur demande du pouvoir politique, mais qui est une censure de la part même des démonteuses qui ont considéré que ce n'était pas montrable. Mais si l'on desserre la focale et qu'on essaie de considérer tout ce qui a été dit en Union soviétique à l'époque, vous avez beaucoup d'initiatives et beaucoup d'articles qui ont eu beaucoup de retentissement. En 1942, signé par Molotov lui-même, le numéro 2 à l'époque du régime soviétique. En 1943, un article nommé « La peste brune » par Alexis Tolstoï, donc grand écrivain soviétique, et grand membre de cette commission extraordinaire d'État, qui détaille, au contraire, l'assassinat systématique des Juifs. Donc, il n'y a pas de silence en Union soviétique. Par contre, il n'y a pas de dénonciation systématique. Mais que font les États-Unis à l'époque, sans parler de la France, sans parler de De Gaulle, qui n'en a absolument jamais parlé?
Il n'y a pas de silence. Mais en l'occurrence, à partir de 1947, le livre noir est interdit. Il y a un tabou,
tout à fait, au minimum. Mais c'est après-guerre. Et donc, vous avez effectivement, à partir de la fin 1947, le lancement d'un antisémitisme d'État qui n'existait pas auparavant en Union soviétique. J'insiste sur ce point. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'antisémitisme en Union soviétique.
Mais pas mais un antisémitisme d'État.
Un antisémitisme d'État, ça veut dire ça veut dire des assassinats de juifs, ça veut dire la condamnation. Alors c'est vrai qu'il y a eu des prémices avec la fermeture du comité antifasciste juif en 1944, la censure effectivement du livre noir d'Ehrenburg et Grossmann, les problèmes de Grossmann lui-même, pas d'Ehrenburg, notons-le au passage. Voilà, donc c'est. Mais il ne faut pas relire le temps de guerre, qui est un temps bien particulier, à la lumière de ce qui s'est passé après la guerre et qui était un contexte particulier, celle de la création de l'État d'Israël et du fait que l'État d'Israël a choisi de se placer sous l'aile américaine plutôt que sous l'aile soviétique.
Mais alors, justement, qu'est-il advenu de ces images, enfin de cette documentation extrêmement violente, extrêmement forte après la guerre?
La meilleure preuve du fait qu'il n'y ait pas eu d'antisémitisme total en Union soviétique, c'est que ces images auraient pu être détruites au titre d'une négation totale de la Shoah. Au contraire, elles étaient dans les archives, elles attendaient les chercheurs, les historiens, et c'est le travail que nous avons pu mener grâce au grand progrès de l'historiographie de ces 30 dernières années, et aussi grâce au fait que nous avons pu identifier ces images, ce qui a nécessité des centaines d'heures de visionnage et beaucoup de travail parallèle pour essayer de comprendre ces images, parce que ces images, quand vous les visionnez sur table de montage, elles ne disent absolument rien. Et donc nous, on a essayé de les faire parler, de savoir ce qu'elles pouvaient vouloir dire à l'époque, ce qu'on leur a fait dire et ce qu'elles peuvent dire aujourd'hui au public de 2015 sur la Shoah, en quoi elles peuvent améliorer notre connaissance de ce phénomène particulièrement complexe.
Mais justement, comment expliquer qu'on n'y ait pas eu accès plus tôt, alors qu'elles sont un témoignage absolument exceptionnel sur cette période qui est évidemment...
On pouvait y avoir accès, simplement personne n'était allé les chercher.
Ni à l'époque soviétique.
Ni à l'époque post-soviétique. Elles sont utilisées, ces images, en tant qu'illustration dans des documentaires, mais ne sont jamais réfléchies. Personne n'avait fait ce travail de compréhension des conditions de tournage et surtout des intentions d'utilisation et des utilisations finales, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, de ces images. Mais ces images, elles existaient, elles étaient répertoriées, elles faisaient partie d'une sorte de cinémathèque et un certain nombre d'opérateurs, dans leur mémoire publiée de manière postérieure, dans les années 60 ou 70, ont parlé de ces images. Mais encore une fois, il fallait en avoir conscience et essayer d'aller enquêter, hein, de faire un travail donc d'historien. Mais ces images n'ont pas été détruites, elles ont été conservées et elles attendaient notre travail.
Elles ont été utilisées dans l'immédiate après-guerre, dans des documentaires a posteriori?
Elles ont été utilisées dans les années 1960, dans le contexte du procès à Eichmann et puis de tous les petits procès, etc. Donc il y a eu aussi, du côté soviétique, de nouveaux procès, de nouveaux documentaires, mais elles n'ont été utilisées que dans des contextes géographiques restreints, notamment restreints aux républiques d'Ukraine, de Biélorussie et aux républiques baltes où ont été perpétrés ces massacres de juifs par la force des choses, d'une part, et puis ensuite à des publics aussi assez restreints, pas censurés, mais disons pas de mémoire d'ensemble soviétique de la Shoah, des mémoires régionalisées.
Alors, pour terminer, comment vous pourriez décrire la spécificité de ces images par rapport à celles qui ont été tournées par les Américains et auxquelles on a eu plus largement accès?
Eh bien, c'est
juste
très simple.
Géographique,
Non, c'est pas juste géographique. Les Américains n'ont pas filmé la Shoah. Les Soviétiques ont filmé les conséquences de la Shoah. Aussi simple que ça. Les Américains, par la force des choses, n'ont pu filmer que des camps de concentration. Les Soviétiques ont filmé la Shoah par balles et ont filmé les camps d'extermination.
Je vous remercie beaucoup, Alexandre Soumpf, d'être venu. Je rappelle que l'exposition « Filmer la guerre, les Soviétiques face à la Shoah 1941-1946 » est présentée au Mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 27 septembre prochain. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.